Bonsoir et bienvenue sur le créneau du Sonolab. Ce soir, vous allez découvrir une série radio sur la citoyenneté et l'écologie avec les 5e F de Lannoy Lambert, un collège situé à Nantes. C'est un très gros projet qui a été mené de front par deux enseignantes du collège, une de français, une d'histoire, ainsi que leurs élèves de 5e. Ils et elles se sont investis sincèrement sur ce sujet, en travaillant en classe entière sur la réflexion et la rédaction de questions à poser auprès d'experts et expertes, et en groupe sur chaque épisode afin de vous livrer un contenu de qualité et, disons-le, admirable, surtout du haut de leurs 12-13 ans. Ce soir, vous allez découvrir les deux premiers épisodes sur 5 de cette série, rédigés et animés par Anis, Zoé, Gabriel, Romy, Maïwen pour le premier, et Nathéo, Xawen, Juliette, Yasmina, Vadim et Rose pour le deuxième. Chaque épisode comporte plusieurs extraits d'interviews réalisés par les élèves de A à Z. Les recherches, la rédaction des questions, les entretiens et la prise de son. Certains propos servent d'ailleurs à plusieurs épisodes, mais chaque épisode cependant traite en détail d'un angle sur la thématique de l'écologie et de la citoyenneté. Vous retrouverez les interviews complètes un peu plus tard sur notre page Castopod dédiée au projet. En attendant, bonne écoute.
Les 5e F de Lannoy Lambert vous présentent une série de podcasts sur l'écologie et la citoyenneté du point de vue des jeunes. Avec l'aide et la participation de
Élodie Mathès-Legarec,
Géraldine Le Priol.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'émission des 5e F du Collège Lannoy Lambert. Cette émission abordera des questions sur la citoyenneté et l'écologie. Aujourd'hui, je suis en présence de Maïwen, Zoé, Romy, Anaïs et moi-même, Gabriel. Pour le premier épisode, nous nous sommes posé la question « Quelle est la cause du dérèglement climatique ?» Nous avons récolté nos réponses à notre question auprès de Madame Balzer, Monsieur Piasecki, Monsieur Cito et Monsieur Riom.
Maintenant, nous allons écouter Madame Balzer, climatologue à l'Université de Nantes.
Bonjour, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît ?
Bonjour, oui, bien sûr. Donc, je suis Agnès Balzer, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Nantes et je travaille, entre autres, sur le climat. Je suis sédimentologue et géophysicienne. Et je travaille plus particulièrement au pôle Nord, dans un endroit qu'on appelle le Svalbard. Et je travaille à cet endroit-là parce que c'est l'endroit où le changement climatique va beaucoup plus vite qu'ailleurs pour l'instant. Et donc, on comprend déjà ce qui se passe en ce moment et on observe du coup les changements de température, la fonte des glaciers, puisque ça va avec, et donc tous les changements des masses d'eau que je vais vous expliquer un petit peu.
Comment définir la transition écologique ?
Alors, la transition écologique, ça consiste à comprendre que l'homme fait partie de l'environnement. Ça veut dire que notre environnement change. Et nous, on n'est pas adaptés à ça. Et donc, ça y est, le changement climatique, il est déjà entamé. Et puis, à nous de nous adapter à ces nouvelles conditions qui sont là. Et le problème, il est, et c'est ce qu'on essaye de faire passer comme message, c'est qu'il faut aussi qu'on arrête de consommer à fond, comme on fait. Parce que si on n'arrive pas à diminuer nos gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ça continue à se réchauffer, et ça va aller tellement vite que nous, on va avoir du mal à s'adapter. Il nous faut un peu de temps pour s'adapter. Et alors, je vais vous donner juste un exemple, parce que ça marche bien, et nous-mêmes, on était très, très impressionnés. Donc, je travaille, moi, au pôle Nord. Et en fait, on s'est aperçu, donc depuis 2015, que même pendant tout l'hiver polaire, avant, on avait toujours de la glace qui recouvrait donc de la banquise, qui recouvrait la mer, les fjords où on était, en fait, maintenant, elle n'est pas tout le temps là. Ça veut dire que notre super banquise qui était là et qui permet à l'ours blanc de se mettre sur la banquise, de se cacher avec son nez comme ça, d'attendre à côté d'un trou qu'un phoque arrive, ça ne marche plus. Parce que comme il n'y a plus de banquise, l'ours blanc, il ne peut plus chasser comme ça. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, les hommes, avec nos super machines et nos super trucs, il faut aussi qu'on s'adapte à notre environnement. Parce que l'environnement, il a changé. Il est en train d'évoluer. Et donc, c'est ça la transition écologique. Il faut qu'on comprenne comment on peut continuer à consommer en diminuant un peu, parce qu'autrement, on continue à faire s'échauffer notre couette autour de la Terre et donc on continue à avoir des températures chaudes. Je vous dis, le problème, c'est que nous, l'homme, on n'est pas du tout fait pour des températures à 50 degrés, on meurt. En gros, on n'y arrivera pas, quoi. Donc c'est ça notre problème. C'est que si on continue à échauffer la planète, eh ben nous, on n'y arrivera pas.
Quel est le rythme souhaitable dans la transition écologique ?
Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut agir. Il ne faut pas qu'on attende en se disant « alors là, c'est trop tard ou c'est pas trop tard ? Où est-ce qu'on va faire ?» Donc il faut vraiment agir parce que, je vous disais, on est formidablement intelligent. Donc ça veut dire qu'on peut faire des choses qui sont vraiment intéressantes. Il faut qu'on s'adapte en se mettant au bon endroit, en prenant les bonnes décisions. Faites attention quand vous voyez plein de choses sur votre écran comme ça, qui vous arrivent comme ça, ou que vous écoutez des choses. Faites attention que ce soit des choses avec des vraies sources.
En conclusion, Madame Balzer nous a expliqué qu'il faudra agir pour l'environnement. Donc, il faut agir rapidement en faisant moins de pollution. Nous sommes d'accord avec Madame Balzer. Nous avons déjà pris du retard. Si nous n'agissons pas vite, on aura du mal à nous adapter. Avec la fonte des glaciers, le niveau de la mer va augmenter, ce qui mettra en danger de nombreuses personnes. Avec la pollution, nous réchauffons la Terre, ce qui a créé le réchauffement climatique. Les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine ont en effet été multipliées par 6 et la planète s'est réchauffée de 1,2 degré. L'origine de ces émissions provient essentiellement de la combustion des énergies fossiles, le charbon, le pétrole et le gaz. Les conséquences principales pour les humains seront une élévation du niveau des mers et des océans, une plus grande fréquence des extrêmes climatiques que sont les vagues de chaleur, les précipitations intenses, les sécheresses agricoles et écologiques.
Maintenant, nous allons laisser place à M. Cito, adjoint au maire de Nantes. Nous avons pensé à l'interviewer car elle pourrait nous éclairer sur la ville et ses actions dans la transition écologique.
Alors bonjour à tous. Donc effectivement, je suis élu depuis juin 2020. J'ai des discussions régulières avec mes collègues élus pour décider de certaines orientations, soit sur deux volets de ma délégation. J'ai une délégation sur le développement de la marche et du vélo sur l'ensemble de la ville de Nantes, mais j'ai aussi une délégation à l'échelle du quartier où vous vivez. C'est le quartier d'Oulon-Bottière, où là, en fait, je peux travailler sur l'ensemble des sujets.
Quel est le rôle des villes dans le dérèglement climatique aujourd'hui ?
Alors, le rôle des villes, il est majeur parce qu'on peut travailler sur énormément de sujets. Peut-être que vous l'avez vu, vous, à l'échelle, par exemple, de la cantine scolaire. On voit que les menus, ils sont en train de changer. Nous, à la ville de Nantes, on a la compétence sur les écoles. Le rôle des villes, c'est aussi de travailler sur les mobilités. C'est comment on favorise les déplacements à pied et à vélo. Le rôle des villes, c'est aussi comment on réhabilite, comment on choisit de plutôt réhabiliter des bâtiments plutôt que de construire des bâtiments neufs. Par exemple, là, on est en train de réfléchir à comment on va rénover la maison de quartier de Doulon plutôt que de la démolir pour en construire une toute neuve. Et depuis 2 ans, on passe à la lecture de notre budget municipal, ce qu'on appelle un budget vert. Et en fait, on définit si chacune de nos dépenses, elle est soit complètement neutre pour les enjeux climatiques, ou soit elle est vertueuse, ou soit elle est défavorable. Et donc, en fait, pour chacune des dépenses, on a aujourd'hui cette capacité de dire est-ce que ça va dans le bon sens ou est-ce que ça ne va pas dans le bon sens ? Et ça nous permet d'ajuster d'année en année nos décisions et nos orientations.
Quels sont les modes de déplacement moins polluants et émetteurs de CO2 à Nantes ? Et pourquoi n'y en a-t-il pas plus ?
Alors, les modes de déplacement qui émettent le moins de carbone, de CO2, c'est évidemment la marche et le vélo, parce qu'on dit que ce sont des modes actifs. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'en fait, l'énergie pour se déplacer, c'est nous qui la produisons. Et nous, à part évidemment pour se nourrir et pour la vie, on émet dans ce cadre-là du CO2, mais pas dans le cadre du déplacement. Nous, collectivité et Ville de Nantes et Nantes Métropole, on a mis en place plein de mesures pour faciliter les déplacements à vélo et à pied. Par exemple, c'est l'aide à l'achat. Pas à tout le monde, parce qu'on se rend compte que finalement, les gens qui ont quand même de l'argent, ils ont les moyens de s'acheter un vélo. Mais ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, ceux qui sont au RSA, ceux qui sont au chômage, bah, c'est parfois difficile d'acheter un vélo et c'est parfois difficile d'acheter un vélo électrique parce que ça peut être très coûteux. On a fait le choix de dire on va financer jusqu'à 70 voire même 90% de l'achat du vélo pour les personnes qui avaient le plus besoin.
Jet FM.
La radio.
91.
Curieuse.
Point 2.
Suite à cette interview, nous pensons, comme M. Cito, que le vélo est une bonne alternative de la voiture, car ce mode de déplacement est plus vertueux et permet de rester en bonne santé. Il faudrait en revanche que plus de gens adoptent ce mode de déplacement. Certes, changer ses habitudes n'est pas quelque chose de facile, néanmoins, il faut que chacun agisse à son échelle.
Nous avons aussi interviewé M. Piasecki, journaliste scientifique.
Nous avons décidé de l'interviewer car selon nous, il pourrait apporter des réponses à nos questions sur les énergies.
Je m'appelle Fabien Piasecki. Je suis quelqu'un qui a été curieux assez jeune et qui s'est impliqué sur les questions d'écologie assez jeune. J'avais lu un article dans Sciences et Vie Junior et ils expliquaient comment devenir le Zorro anti-pollution et l'expression avait bien plu à l'époque. Je fais toute ma carrière professionnelle après de longues études universitaires. J'ai fait toute ma carrière professionnelle plus ou moins dans ce qu'on appelle l'activisme ou le militantisme. On essaye de travailler à réorienter les politiques de recherche au niveau français et au niveau européen. Réorienter les politiques de recherche, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des espèces de gros bulldozers, des grandes orientations qui sont décidées tout en haut, quelquefois par des gens qui n'y connaissent pas grand-chose, mais qui se laissent influencer par ce qu'on appelle le lobby industriel. Et nous, ce qu'on essaye de faire à notre petit niveau, c'est de faire en sorte, je vous l'ai déjà dit, que les citoyennes et les citoyens soient écoutés, mais aussi qu'une partie des budgets de recherche soit décidée par les citoyens eux-mêmes, les citoyens et les citoyennes eux-mêmes. Je travaille aussi au développement de la recherche participative. Rapidement, la recherche participative, c'est une recherche qui est menée conjointement par des associations et des chercheurs, mais au même niveau, c'est-à-dire qu'on ne dit pas que le chercheur est plus fort que l'association de paysans ou ce genre de choses. Il y a des gens qui sont convaincus aujourd'hui que pour résoudre les problèmes d'émissions de CO2, de gaz à effet de serre, ce genre de choses, on va trouver des réponses technologiques. Nous savons, c'est technosolutionnisme. En anglais, on dit technophile. À titre personnel, et dans mon association, on est très, très méfiants vis-à-vis de ces technologies-là, parce que la technologie qui vient au secours de la technologie, pour nous, c'est une fuite en avant.
Selon vous, que pourrait faire le monde entier pour limiter les émissions de CO2?
Il faudrait que les riches arrêtent de vouloir être de plus en plus riches en ne prenant pas en considération le monde qui les entoure, en ayant des comportements complètement irresponsables. Je pense en particulier à ces gens qui prennent des jets privés pour faire quelques centaines de kilomètres. Et quand je pense aux gens les plus riches, je pense aussi à nos gouvernants.
Qu'est-ce qu'une énergie propre et en existe-t-il à l'heure actuelle?
Alors, les énergies propres, ce sont ce qu'on appelle les énergies renouvelables. Enfin, y en a évidemment à l'heure actuelle. Hein, tout ce qui est, on peut pas cracher sur le développement de l'éolien, du solaire, du travail sur l'énergie hydraulique, tout ce qui peut se faire avec les marées ou ce genre de choses. On parle de plus en plus de géothermie, c'est-à-dire utiliser la chaleur du sol ou de la biomasse, c'est-à-dire retraitement des déchets ou ce genre de choses pour créer de l'énergie. Donc oui, ce sont des énergies propres. Pour autant, il n'y en a pas une qui est plus vertueuse que l'autre. Ce qu'il faut, c'est apprendre à mixer. C'est mon avis à moi, mais je pense qu'il faut apprendre à mixer ces différents types d'énergie.
Quelles sont les technologies inventées pour limiter les émissions de carbone dans le monde et en France?
Donc, les techniques de manipulation du climat à grande échelle, qu'on appelle la géo-ingénierie. À titre personnel, j'ai beaucoup de mal à y croire, donc je n'ai pas envie de les promouvoir. Alors, pour vous donner un exemple des technologies qui ont été pensées, parce que des scientifiques se sont rendus compte que, par exemple, après une énorme éruption volcanique, il y avait beaucoup de soufre qui partait dans l'atmosphère, et que sur la planète entière, pendant des mois, voire des années, à certains endroits, la température pouvait baisser de 1 degré, voire 1 degré et demi, mais partout sur la planète. Et du coup, il y a des scientifiques qui se sont dit, tiens, si on pulvérisait du soufre dans l'atmosphère, comme ça on va baisser la température et on va pouvoir continuer à consommer. Et ils se sont dit, on va envoyer des flottes d'avions au niveau de la stratosphère pour envoyer du soufre à longueur de temps, pour faire comme s'il y avait des éruptions volcaniques tout le temps, pour continuer à faire baisser la température. Bon, déjà, ça, c'est quelque chose d'un peu fou, parce que, par définition, eux-mêmes vont polluer. Et en plus, avoir du soufre dans l'atmosphère, ça veut dire avoir un ciel qui va être jaune hein, en permanence aussi. Mais surtout, il faudrait faire ça en continu, en ayant la certitude qu'on puisse tenir ça en permanence, parce que le principe du soufre dans l'atmosphère, c'est que si à un moment on arrête d'en mettre, comme quand il y a à la fin d'une éruption volcanique, en tout cas de ses effets, eh ben la température remonte à la température à laquelle elle aurait dû être quand on n'avait pas envoyé de soufre. Vous imaginez bien, si on fait ça pendant 20 ou 30 ans avec le réchauffement climatique qu'on est en train de se prendre, là, au moment où on va s'arrêter, on va pouvoir se prendre 8-10 degrés. Et vous imaginez les conséquences sur la planète et l'humanité. Je préfère même pas que vous imaginiez. Par exemple, ce principe de géoingénierie était considéré vraiment comme quelque chose d'un peu farfelu il y a encore 15-20 ans. Et finalement, on a commencé à voir apparaître ça comme un plan B il y a 10-15 ans maintenant, je crois, comme un plan B potentiel. Et maintenant, on commence à intégrer ça comme étant une des seules solutions possibles. Donc plutôt que changer les comportements, on va essayer, encore une fois, de trouver une solution technologique, de faire du technosolutionnisme. Et à mon sens, ça peut être très très dangereux.
Que pensez-vous des nouvelles énergies ?
Si par nouvelle énergie, on entend énergie renouvelable, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis évidemment pour. Si c'est, même si ce n'est pas une nouvelle énergie, mais si c'est pour extraire plus de gaz de schiste, je suis contre. Évidemment, parce que c'est, encore une fois, c'est pas vertueux, c'est fracturé vous-même. Vous allez trouver des énergies plus propres, des énergies renouvelables auxquelles notre génération n'a pas encore pensé.
En conclusion, M. Piasecki a raison de penser que la technologie qui vient au secours de la technologie n'est pas une solution et que cela ne fera qu'empirer les choses. Il faut œuvrer pour une planète plus écologique et plus juste. De plus, la majorité de la population riche souhaite s'enrichir de plus en plus. Elle ne prend pas en considération le monde qui les entoure et a des comportements irresponsables vis-à-vis de la planète et de son avenir. Comme le dit le dernier rapport du GIEC, les ménages dont le revenu se situe dans les 10% les plus hauts sont à l'origine des 34 à 45% des émissions mondiales de gaz à effet de serre liées à la consommation. Les pays développés n'ont toujours pas réuni les 100 milliards de dollars annuels promis lors de la COP15 en 2009 pour aider les pays les plus pauvres dans la lutte climatique. Enfin, pour chaque projet que nous souhaitons mettre en place, il faut penser aux conséquences que celui-ci va avoir sur la Terre et ses habitants.
Maintenant, voilà M. Riam, adjoint à la ville de Nantes et Nantes Métropole, en charge de la transition écologique. Il pourra répondre à notre question à l'aide de ses connaissances sur la transition écologique.
Bonjour, je m'appelle Tristan Riom. Donc depuis 2020, l'année 2020, je suis élu à la ville et à la métropole de Nantes. Et un de mes postes, c'est donc vice-président de Nantes Métropole en charge des questions de transition écologique. Donc ce métier, c'est d'orienter les politiques publiques, d'orienter les choix politiques qu'on fait sur la métropole de Nantes sur les questions de transition écologique.
Quelles sont les énergies que nous devons abandonner et pourquoi ?
Il faut qu'on abandonne toutes les énergies qui ne sont pas renouvelables. Ça, c'est vraiment le sujet, parce que si on veut être dans un monde qui respecte l'environnement, il faut qu'on ne consomme des ressources que quand c'est renouvelable. Si vous prenez quelque chose et que c'est pas renouvelable, si, je sais pas, vous vous mettez à... S'il y a un arbre dans un parc et que vous voulez vous chauffer au bois et que vous coupez toutes les branches et que l'arbre meurt, vous voyez que vous avez dépassé le renouvelable. Donc il faut juste prendre les branches au niveau où il est capable de repousser. Donc il faut absolument qu'on travaille sur les énergies renouvelables. Ce qui veut dire qu'on doit se passer de toutes les autres. Donc notamment le pétrole, qui émet beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, et donc c'est un problème évidemment pour le réchauffement climatique, mais aussi l'énergie nucléaire, qui n'est pas renouvelable parce qu'elle se base sur de la matière fissible et qui pose plein de problèmes de déchets derrière. Donc il faut absolument qu'on passe à 100% d'énergie renouvelable. Parfois, quand on parle d'énergie, on a tendance à se dire comment est-ce qu'on trouve des énergies renouvelables, mais en fait, on ne peut pas produire autant d'énergie renouvelable que ce qu'on consomme aujourd'hui. Donc il faut consommer moins d'énergie, c'est super important.
Comment varier les énergies utilisées ici en France et utiliser moins d'énergie fossile ?
On a globalement trois énergies qu'on utilise, je vous l'ai dit. Enfin, si je fais des gros cailloux, très résumé. On a le pétrole, le gaz et le nucléaire. Le pétrole pour se déplacer, le gaz beaucoup pour se chauffer et cuisiner, et le nucléaire pour se chauffer, cuisiner et puis surtout faire tous les autres usages. Donc pour se débarrasser de ces trois, il faut en fait diversifier, c'est-à-dire qu'il faut trouver de nouvelles énergies. Peut-être que le déplacement se fera principalement aux muscles, à vélo, mais aussi avec des voitures qui peuvent rouler à l'hydrogène, au gaz vert, à d'autres solutions. Donc en fait, on va avoir plein de solutions technologiques différentes. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que déjà, il faut que les citoyens soient prêts à consommer moins d'énergie et aussi qu'on recherche des solutions énergétiques qui soient le plus efficaces en fonction de ce qu'on veut faire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a plein de bénéfices au fait de changer de pratique. Quand en tout cas, j'essaye de voir est-ce que je vais plus vite ou moins vite une voiture, souvent je gagne parce que le temps de se garer, etc., on gagne du temps. Mais en plus, on gagne de l'argent parce que la voiture, ça coûte très cher. Et donc, avec le prix de l'essence, des assurances, etc., forcément, bah, par rapport à un vélo qui ne coûte pas très très cher, enfin, il faut bien l'entretenir, mais voilà, ça ne coûte pas très cher, on gagne de l'argent. Et en plus de ça, quand on fait du vélo, eh ben, on fait du sport. Et du coup, on reste en bonne santé aussi grâce au vélo.
Comme le dit Monsieur Riom, pour réussir à avancer dans la transition écologique, il faut diversifier nos énergies pour trouver un juste milieu entre les énergies fossiles et les énergies renouvelables. De plus, comme le disait M. Piasecki, plus les personnes ont des revenus importants, plus ils vont consommer de l'énergie. Enfin, il pense que le réchauffement climatique a quelque chose d'excitant, car il a hâte de voir la manière dont nous nous adapterons.
Merci à toutes et à tous. C'était le groupe de la 5e F du Collège La Noë-Lambert auprès de Madame Badzer, M. Piasecki, M. Citeau et M. Riom. Merci à nos auditeurs et auditrices d'avoir écouté ce podcast. Merci aussi à JetFM, notre prof d'histoire géo. Et merci à notre prof de français.
Comment faire pour émettre moins de CO2 ?
Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode. Boire et manger, deux enjeux vitaux. Aujourd'hui, vous allez entendre
Nathéo,
Vadim,
Xawen,
Juju,
Yasmina
et Rose. Nous allons parler de l'alimentation, de l'eau et surtout de leur impact sur l'environnement et de leur rôle dans la transition écologique. Nos invités sont Monsieur Hamou, chef cuisinier de notre collège La Noë-Lambert, Madame Plantive, maraîchère bio en Loire-Atlantique sur la commune de Sainte-Pazanne et Monsieur Pontieu qui travaille à l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Nous allons commencer par l'interview de Monsieur Hamou.
Alors bonjour, je m'appelle Romain Hamou, je suis chef de cuisine à la Noë-Lambert, collège de Nantes.
Quel est l'impact carbone d'un repas au self ?
Il faut savoir que l'agriculture joue un rôle très important dans l'empreinte carbone, car tout ce que vous consommez va être transformé, va être cuisiné, va être transporté. Donc au niveau empreinte carbone, c'est très très important au niveau de l'échelle nationale.
Est-ce que l'impact carbone de l'alimentation varie selon les saisons ?
On peut dire que oui, parce que l'agriculture est plus dense en saison printanière et estivale. On cultive plus de tomates, on cultive plus d'aubergines. Voilà, on a moins ces fruits et ces légumes-là en hiver. Donc l'été, c'est sûr que l'empreinte carbone est plus importante.
Utilisez-vous des aliments hors saison ?
Alors, ça fait partie de mon métier de travailler des produits au maximum de saison. Donc, on essaye d'éviter de cuisiner des tomates en hiver. Et c'est très important pour moi aujourd'hui.
Est-ce que l'impact carbone de l'alimentation varie selon le régime alimentaire ? Et si oui, pourquoi ?
Alors, comme je disais tout à l'heure, tout ce qui est agriculture, ça va impacter forcément le régime alimentaire. Une vache, par exemple, va produire beaucoup de méthane à force de sa digestion. Donc c'est pour ça qu'il faut aller plus vers une consommation végétale qui va produire moins de gaz à effet de serre.
Arrivez-vous à trouver des aliments locaux en quantité suffisante ?
Oui, aujourd'hui on a un approvisionnement local qui est assez important et on a une région qui est assez riche en agriculture. Donc c'est assez facile aujourd'hui de trouver des fruits, des légumes, des produits laitiers dans notre département.
Utilisez-vous des plats surgelés ? Si oui, pourquoi et quel impact carbone ont-ils par rapport aux aliments frais ?
Oui, on utilise des produits surgelés, surtout dans les garnitures, tout ce qui va être haricots verts, jardinière de légumes par exemple, qu'on peut vous présenter au self. Ce n'est pas les meilleurs produits au niveau de l'empreinte carbone, parce que c'est des produits qui ont été récoltés, qui ont été transformés en usine. Il y a des émissions, il y a de la pollution, il y a des déchets. Mais aujourd'hui, avec les moyens humains qu'on a au niveau de la restauration scolaire, on n'a pas le choix que d'utiliser ces produits-là.
Comment faites-vous pour créer des repas qui conviennent à tout le monde ?
C'est toute la difficulté de mon métier, c'est de faire plaisir à vous les collégiens. J'ai de la chance d'être papa, donc j'ai des enfants aussi, et donc ça m'aide beaucoup dans mon orientation culinaire pour créer les menus. Après, il faut savoir que moi, je dois suivre un plan alimentaire pour vous faire des menus variés. Donc on doit se plier au GEMRCM, c'est un groupement d'études de marché et qui nous dit que tel enfant a besoin par exemple de 100 grammes de viande par assiette, une entrée de 70 grammes, une entrée de 120 grammes de féculents par exemple. Donc moi je suis obligé de suivre un peu ces recommandations, c'est des recommandations nationales.
Comment faire pour réduire l'impact carbone et notre alimentation à la maison ?
Faut réduire un petit peu les viandes, aller un peu plus vers le végétal, travailler un peu plus de produits faits maison, essayer de faire au maximum sa propre agriculture, ses propres plantations, faire ses tomates quand on arrive au printemps, là, commencer à semer, et puis essayer de consommer un peu soi-même, quoi, d'être auto-producteur pour être auto-consommateur.
Nous poursuivons avec Madame Plantier, maraîchère bio à Sainte-Pazanne au sud de la Loire-Atlantique. Lors de notre rencontre, elle nous a dit
qu'elle avait une exploitation de ferme biologique depuis 35 ans. C'est une histoire familiale. Elisabeth exploite la ferme avec son mari Daniel, qui a lui-même repris la ferme de son père. À la base, c'était de la polyculture élevage sur 26 hectares. Le beau-père d'Elisabeth, dans les années 1960, a refusé d'opter pour le modèle intensif d'agriculture qui s'était imposé et a refusé de mettre des produits chimiques sur sa ferme. C'était un précurseur de l'agriculture biologique.
Ils produisent essentiellement des légumes. Ils font essentiellement de la vente directe, sur les marchés et en AMAP, qui sont des associations pour le maintien de l'agriculture biologique et qui mettent en relation des consommateurs avec des producteurs.
Les parents d'Elisabeth étaient agriculteurs, donc elle a toujours évolué dans ce monde et l'écologie l'a toujours passionnée. La rencontre avec son mari et son projet lui ont tout de suite plu. C'est un métier difficile, avec des conditions physiques assez fortes, mais très enrichissant. Ce qui l'a attiré, c'était le respect des droits des animaux et de la nature, et pouvoir nourrir les autres sainement.
Elisabeth nous répète que c'est vraiment la rencontre avec son mari qui a tout changé dans sa vie. Il avait déjà une formation en agriculture et en lien avec les animaux. Et l'engagement familial a convaincu Elisabeth.
Madame Plantif nous a parlé du glyphosate et d'autres produits utilisés pour les cultures. Ce sont des produits chimiques qui laissent des traces dans les aliments et sont dangereux. Cultiver bio, c'est respecter l'équilibre de la nature. En ce qui concerne la consommation, c'est important car ce sont des produits qui ne sont pas chimiques. Si on utilise des produits chimiques pendant la culture, ils se retrouvent dans nos assiettes et dans nos organismes. L'organisme n'est pas forcément capable de les traiter et nous les stockons.
Le bio, c'est aussi respecter le travail des gens, les protéger, proposer de bonnes conditions de travail. On a pu constater des cas de cancer liés directement à l'usage de ces produits chimiques. Soutenir une filière de gens respectueux des travailleurs est important. Le bio n'est pas toujours plus cher. Manger de saison, c'est le premier geste à adopter. Cuisiner est un bon moyen de manger moins cher.
Madame Plantive nous rappelle que tout le monde devrait pouvoir manger des produits sains. Ne pas gaspiller, c'est aussi important, parce que ça coûte cher de produire. Et c'est aussi le respect de ceux qui ont produit. Au moins 20% de notre alimentation dans les cantines doit être bio. C'est une obligation depuis 2020. Quand le cuisinier prépare les aliments biologiques, il y a moins d'eau, plus de matière sèche, donc moins de pertes. Et finalement, c'est moins cher.
Chaque personne a un pouvoir très important pour changer les choses avec ce qu'il consomme. On a l'impression que c'est tout petit, mais c'est le pouvoir des consommateurs qui est le plus fort et qui fera changer les choses en soutenant les agriculteurs bio et la filière.
Pour aider à l'installation des agriculteurs, il y a des gens engagés, regroupés en associations qui décident d'acheter des terres pour que des petits agriculteurs puissent s'installer. Les PLU, plans locaux d'urbanisme, permettant à une commune de gérer ses champs et ses propriétés. C'est un bon moyen de protéger ses terres contre le marché immobilier, la bétonisation. Après, il est important de se poser la question de la fertilité.
Et de s'il est nécessaire de la garder et de la mettre en terre agricole ou la transformer. C'est important de garder de la terre disponible car c'est l'agriculture qui nous nourrit.
Nous terminons cet épisode avec l'interview de Monsieur Pontieux.
JetFM 91.2.
Je m'appelle Hervé Pontieux, je travaille à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Alors l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, c'est un établissement public administratif qui a pour objectif d'améliorer la qualité des eaux et l'état des milieux aquatiques. Moi, je suis coordonnateur de projets territoriaux, c'est-à-dire que j'accompagne les acteurs du territoire, les élus, les agriculteurs ou autres acteurs, dans ce domaine-là, pour améliorer la qualité des eaux et l'état des milieux aquatiques. Alors, les objectifs de mon travail, comme je vous disais, ils sont d'améliorer la qualité des eaux. Donc ça peut être la qualité de l'eau potable, la qualité des eaux consilicoles, par exemple, pour la culture des huîtres, des moules. Ça peut être la qualité des eaux des rivières, hein, plus globalement. Et c'est aussi d'accompagner à améliorer l'état des milieux aquatiques, donc des rivières, des zones humides, des nappes souterraines, mais surtout des rivières. Et aujourd'hui, il faut les restaurer parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait fait des erreurs par le passé. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de restaurer tout cela. Et ça rentre dans un cadre général qui est un cadre européen. Il y a une directive cadre européenne sur l'eau qui date de 2000, qui demande d'atteindre, alors ce qu'on appelle, je suis désolé, c'est un peu technique, mais le bon état des masses d'eau, le bon état des cours d'eau, qui s'appuie notamment sur des indicateurs biologiques. Et quand ces indicateurs biologiques sont bons, ça veut dire que la rivière fonctionne bien. Et ces indicateurs biologiques, c'est par exemple des poissons, des insectes, des mollusques qu'on va retrouver dans l'eau, et qui, si on les retrouve, ça veut dire que le milieu fonctionne bien. Voilà.
Comment sont réparties les ressources en eau en France ?
Bah, vous savez qu'il y a différentes formes de ressources. Et ça dépend d'un secteur à un autre. Par exemple, l'eau potable en Vendée est essentiellement produite à partir d'eau de surface, donc des retenues d'eau, des réserves en eau, qui sont sur les cours d'eau. Alors qu'il y a d'autres secteurs en France, c'est essentiellement de l'eau souterraine.
Y a-t-il des pénuries de ressources en eau ici en France ?
En fait, c'est vrai à certains moments de l'année et c'est pas vrai à d'autres moments de l'année. Et c'est vrai à certains endroits et c'est pas vrai à d'autres endroits. Et par exemple, l'été dernier, il y a certains secteurs où l'alimentation en eau potable n'a pas pu être assurée. Et si bien que la commune ou le syndicat d'eau potable a dû distribuer de l'eau en bouteille pour assurer l'alimentation en eau potable. Donc vous voyez bien que, bah, à certains moments, notamment en période de sécheresse, ça peut être compliqué au moins d'assurer l'alimentation en eau potable. Et après, on sait qu'on a aussi des cours d'eau qui sont parfois naturellement assez secs. C'est un peu le cas en Vendée, un peu le cas en Loire-Atlantique.
En France, d'où vient l'eau que nous buvons ?
Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, de nappes, donc d'eau souterraine, des rivières et des fleuves et de barrages, beaucoup aussi. Donc, ça dépend de là où on se situe.
Possédons-nous en Loire-Atlantique une bonne qualité de la ressource en eau ?
Alors, l'eau dans le milieu naturel en Loire-Atlantique, elle est pas très bonne. On va le dire comme cela. Je parle bien en milieu naturel. On a en fait un seul secteur où une eau est considérée en bon état, où un cours d'eau est considéré en bon état. Tout le reste n'est pas considéré comme étant en bon état. Par contre, si on regarde la qualité de l'eau potable que vous avez à votre robinet, elle est bonne. Il n'y a pas de problème par rapport à cela. C'est juste l'eau dans les cours d'eau. Donc c'est vrai que le problème qu'on retrouve plutôt sur l'eau potable produite à partir de nappes, c'est les problèmes de pesticides beaucoup et par endroits des problèmes de nitrates. L'essentiel de l'utilisation en Loire-Atlantique, c'est clairement l'eau potable et après le monde agricole.
L'eau a-t-elle la même qualité qu'avant l'utilisation des pesticides et engrais avant l'industrialisation de l'estuaire de la Loire ? Y a-t-il eu un tournant dans la qualité de l'eau ?
Alors, le tournant, il vient surtout de l'industrialisation et le développement d'après-guerre, en fait, essentiellement. C'est plutôt là où on a cherché à produire davantage au niveau agricole, on a cherché à développer l'industrie, et du coup, ça s'est accompagné de rejets divers. Depuis, on cherche à évoluer et à progresser. Il y a eu le remembrement, par exemple, où il y a eu des travaux pour faire que l'eau s'écoule le plus vite possible, et donc ça a porté atteinte à la qualité de l'eau et au fonctionnement des milieux aquatiques.
Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est que le remembrement et quelles conséquences ça a eu sur la qualité de l'eau en Loire-Atlantique ?
Alors, le remembrement, l'idée, ça a été de faire des parcelles plus grandes et regroupées pour faciliter l'utilisation du sol, en fait, par la profession agricole. Donc, c'était très important et très utile pour le développement de l'agriculture, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais par contre, ça a eu des contraintes, c'est qu'on a allé à des parcelles carrées, rectangulaires, de forme très géométrique. Et derrière, les cours d'eau sont venus séparer ces parcelles, sont venus entre ces parcelles et ainsi de suite. On a aussi eu des formes géométriques. Et en même temps, on a aussi arraché un certain nombre de haies. C'est-à-dire que c'est plusieurs parcelles qui ont été regroupées pour en faire une seule, des grandes parcelles, donc plus faciles à travailler. Mais du coup, on a supprimé des haies. Et les haies sont intéressantes. Parce que elle favorise l'infiltration d'eau dans le sol, c'est des sources de biodiversité, on dirait les papillons, les lapins, enfin de nombreuses espèces y vivent ou s'y abritent. Ça permet de lutter contre le vent, donc ça lui permet d'éviter l'assèchement des sols, par exemple. Donc cette suppression des haies a aussi eu un impact.
Comment évalue-t-on la qualité de l'eau ?
Il y a plusieurs qualités de l'eau, en fait. Hein, je vous ai dit, on regarde la qualité de l'eau et on regarde aussi les indicateurs biologiques. Donc c'est un ensemble de paramètres, et même pesticides et certains micropolluants, c'est un ensemble de paramètres qui sont pris en compte, qui sont analysés pour pouvoir estimer cet état de l'eau. Parmi cet état, il y a la qualité de l'eau, comme je vous disais. Donc il y a certains éléments qui font partie de la qualité de l'eau, température, le pH, l'oxygène. Tout ça, on le mesure directement lorsqu'on fait le prélèvement dans la rivière. On fait un prélèvement, on met la sonde dans le petit bac de prélèvement et on mesure ces paramètres-là. Donc ça se fait sur site. Il y a d'autres paramètres qu'on fait en laboratoire.
Que pourrions-nous faire pour économiser, gérer et préserver nos ressources en eau à Nantes, à notre âge, c'est-à-dire 12 et 13 ans?
Alors, 12 et 13 ans, c'est très, très, très ciblé. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Déjà, j'ai envie de dire, comment utilisez-vous l'eau? Vous, c'est pas vous qui faites la cuisine chez vous. Non. C'est pas vous qui vous occupez du potager chez vous, si vous en avez un. Ou de l'arrosage des fleurs sur votre balcon. Bon. Alors, 12, 13 ans, qu'est-ce que vous faites? Le matin, en gros, vous allez aux toilettes, vous prenez votre douche, vous brossez vos dents, etc. Donc, l'enjeu, il est sur votre consommation en eau, essentiellement.
À votre avis, que faut-il faire pour bien répartir l'eau dans le monde?
Qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux répartir l'eau dans le monde? C'est tellement vaste comme question. C'est localement que ça se joue. À réussir à utiliser l'eau, j'ai envie de dire, entre guillemets, intelligemment, c'est-à-dire à voir quel est l'usage prioritaire de l'eau, quelles sont déjà les ressources disponibles et quel est l'usage prioritaire. Si les ressources disponibles sont assez faibles, on peut logiquement penser que l'usage prioritaire, c'est l'alimentation en eau des populations. Nous, ce qu'on peut faire aussi, c'est peut-être regarder notre régime alimentaire et comment adapter notre régime alimentaire en mangeant des choses qui consomment moins d'eau et qui demandent moins d'eau. Manger de la viande, les vaches ont un impact parce qu'elles rejettent du carbone et donc ça a un impact sur le réchauffement climatique. Par contre, l'élevage, derrière, ce sont des prairies, ce sont des haies qui sont, elles, sont bonnes pour l'eau. Donc comment on fait dans ces éléments contradictoires? Donc là, il y a des questions.
Comment réduire le manque d'eau dans les pays pauvres qui subissent des sécheresses?
Alors déjà, nous, pays développés, on peut essayer de les aider. Et puis on est quand même des pays avec des moyens financiers qu'eux n'ont pas. Et donc c'est bien aussi d'être solidaire par rapport à nos moyens financiers. Alors on a... Une loi comme ça, c'est quelque chose de tout simple, mais qui dit qu'on doit attribuer 1%, alors les agences de l'eau doivent attribuer 1% de leurs recettes en soutien aux pays en développement ou en difficulté. Alors 1%, quand vous savez qu'on a un budget de 350 millions par an, c'est déjà pas mal. Hein, 3,5 millions par an, c'est déjà ça. Si tout le monde le fait, ça peut être une bonne aide. Donc ça, c'est un premier point, leur apporter un soutien financier. Donc on a des techniques, il y a des ONG, on accompagne des ONG, on accompagne des organismes qui peuvent les aider. Après, c'est réussir, comme je disais tout à l'heure, à utiliser les ressources qu'ils ont. Mais c'est plus les accompagner à bien réfléchir pour bien utiliser leurs ressources déjà cela.
Vos actions et celles de l'Agence de l'eau ont-elles des résultats pour la transition écologique et pouvez-vous nous donner des exemples?
Alors, des résultats. On peut évoquer, si on veut être très concret, le phosphore sur 30 ans, le phosphore dans les cours d'eau. Alors, plusieurs paramètres ont permis de voir une évolution du phosphore dans les cours d'eau globalement. Un, c'est la suppression du phosphore dans les lessives. Ça, c'est pas nous. C'est pas notre travail, c'est pas nous. C'est la législation qui a évolué. Et du coup, comme il n'y a plus de phosphore dans les lessives, par le passé, on en a retrouvé moins dans la qualité de l'eau. Nous, par rapport à notre travail, comme je disais tout à l'heure, c'est à travers l'assainissement, donc l'amélioration des réseaux de collecte, des stations d'épuration, ce qui fait que derrière, nos eaux usées sont mieux traitées et donc il y a moins de phosphore rejeté. Et après, vous pouvez aller voir Nantes Métropole réalise des travaux sur l'Erdre, sur le Sens et le Gèvre, précisément, actuellement. Donc il y a des travaux qui se réalisent là. Il y en a eu l'été dernier, il va y en avoir cet été, qui se réalisent régulièrement, que vous pouvez sûrement aller voir. Je pense qu'il n'y a pas de souci pour vous rendre compte de ça et contacter Nantes Métropole pour aller les voir, par exemple. Mais des résultats, on en voit très localement.
Quel sera l'effet du dérèglement climatique sur la ressource en eau à Nantes?
Alors l'effet principal que l'on peut voir, c'est la baisse du débit de la Loire en été. Dès qu'on a un été sec et une période sèche globalement, le bassin de la Loire étant très très grand, on voit que le débit de la Loire baisse. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut porter préjudice, ça peut gêner la production d'eau potable, donc l'alimentation en eau potable sur le secteur de Nantes. Donc l'hiver, plus de périodes de pluie, et puis l'été, des sécheresses qu'on va retrouver aussi, et des canicules surtout, qu'on va retrouver de plus en plus, et de plus en plus fortes aussi. Donc c'est plutôt ces situations extrêmes qu'on va voir apparaître. Le reste de l'année, on va être à peu près comme aujourd'hui. Voilà. Et on nous dit une élévation de température de l'ordre de 4 degrés.
Nous avons appris que dans les restaurants scolaires et universitaires, les cuisiniers devaient utiliser au minimum 20% des produits biologiques. Ici, à la Noé-Lambert, nous sommes à 28%. Mais ce n'est pas le cas partout. Nous avons aussi appris que cultiver bio est meilleur pour l'environnement et pour réduire l'impact carbone. Pourquoi ne pas augmenter ce pourcentage si nous savons que c'est ce qui est bon pour la planète et pour nous ?
Nous avons également appris que la production de viande émet beaucoup de CO2, surtout l'élevage intensif des bovins. Nous pensons donc qu'il faudrait manger moins de viande et trouver une alternative végétale. Les produits d'origine animale, viande, produits laitiers, poissons, sont responsables de la majorité de l'empreinte carbone alimentaire des Français, 61%.
Il faudrait aussi moins importer des aliments venant d'autres pays. Arrêter de consommer des aliments hors saison, surtout quand ils sont également dans des serres chauffées. Il faut également consommer moins de produits.